France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Certains, je dis bien certains, prétendent qu'il s'agit d'un livre niais, cucul à praline, tiède, consensuel, depuis des décennies, 8 exactement. Les critiques sont vives à l'encontre du Petit Prince. Oui, mais voilà, dans le même temps, l'ouvrage est aussi l'un des plus lus au monde. Demandez autour de vous, unanimisme, tout le monde aime, tout le monde adore le Petit Prince, le livre non religieux le plus lu, le plus vendu au monde, c'est ce que l'on affirme. Alors un débat ce soir à l'occasion justement des 80 ans de sa publication en français. Ce conte est-il un chef-d'œuvre ou une arnaque façonnée par et pour les adultes? Deux invités pour en débattre. Alban Cerisier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général des éditions Gallimard, éditeur et spécialiste de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Et je précise qu'à l'occasion de l'anniversaire des 80 ans de la publication en France du Petit Prince, Gallimard republie le manuscrit en version augmentée, facsimilée et transcription. Et chez Gallimard Jeunesse, je signale par ailleurs une édition illustrée interactive par le studio Minalima qui paraîtra le 2 avril prochain. Face à vous, et c'est le cas de le dire, Raphaël Antoven, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes écrivain et essayiste, auteur du livre, notamment de ce livre, L'Albatros, qui a paru en août dernier aux éditions de l'Observatoire. Merci donc à vous deux d'être présents ce soir dans Question du Soir.
J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Hein?
Dessine-moi un mouton.
J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement.
Lecture sublime de Gérard Philippe. Et je commence, Alban Cerisier, non pas avec l'éditeur que vous êtes, mais avec le lecteur. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous emporte lorsque vous lisez, relisez Le Petit Prince?
Je pense que c'est le climat émotionnel du livre, la façon dont Saint-Exupéry parvient à faire de ce récit une émotion à l'état brut. Ce qui, de fait, explique sa réception prolongée. Je veux dire, c'est que cette émotion, la preuve de cette émotion, c'est qu'elle soit encore là, en réalité. Enfin, voilà, et qu'elle est là pour le lecteur d'aujourd'hui et pour la multitude d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est effectivement, je pense, la réussite de cette œuvre-là et l'équilibre avec finalement la faiblesse des moyens mis en œuvre pour cela. C'est-à-dire une littérature très simple, qui se donne toute seule, et une écriture toute simple, limpide, et le dessin qui est omniprésent, on le voit bien d'ailleurs dans l'extrait que vous présentez là, qui est le point de rencontre entre le monde des adultes et le monde de l'enfance, qui est le grand mystère en fait pour Saint-Exupéry. Il a tourné autour de cette question pendant toute sa vie, et dans toute son œuvre, que ce soit dans Pilote de guerre ou dans Le Petit Prince, comment le lien avec ce territoire abandonné qu'est l'enfance demeure possible. Et la réponse de Saint-Exupéry, elle est double, en l'occurrence, c'est le voyage et c'est le dessin. Le dessin ne forme pas la jeunesse, il permet de retourner à la jeunesse, c'est-à-dire revivre les émotions de la jeunesse.
Vous aurez pour mission, Alban Cerisier, de tenter de convaincre Raphaël Antoven de la force de ce texte, puisque vous avez vous-même écrit, Raphaël, dans Le Point, que ce texte, c'était 100 pages de trop pour une salade consensuelle. Expliquez-nous.
Oui,
c'est un rebours de la vie générale.
Oui, on peut en parler. À rebours de la vie générale. Pour être tout à fait honnête, je ne connais pas grand monde qui aime Le Petit Prince. Pour être tout à fait honnête, je ne connais pas un enfant qui aime Le Petit Prince. Je ne connais que des adultes qui disent l'avoir aimé, qui se souviennent du plaisir qu'ils ont pris à cette lecture. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Bon, moi, je suis complètement passé à côté, si vous voulez. Enfin, je l'ai lu plusieurs fois, avec intérêt, etc.
Lorsque vous étiez enfant ?
Non, j'avoue que j'ai pas réussi à aller au bout quand j'étais petit. J'y suis arrivé plus tard. Mais bon, je l'ai lu. Mais c'était un effort pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est cette idée-là qui m'a mis la puce à l'oreille. Pourquoi ce livre est-il tant aimé par des gens qui disent l'avoir aimé, qui se souviennent d'avoir été enfant ? Parce que c'est le livre de l'idée que les adultes se font de l'enfance. Et ça, une fois qu'on a cet angle de vue sur le texte, j'avoue que plein de choses s'éclairent. Plein de choses s'éclairent. Bon, les citations sont innombrables et on aura l'occasion d'y revenir, mais quand il dit, par exemple, « Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications », c'est tout sauf la pensée d'un enfant. C'est l'idée que l'adulte se fait de l'enfance. Un enfant tient l'adulte pour omniscient, au contraire, nanti d'un pouvoir magique. Il n'a pas le sentiment, l'enfant n'a pas la nostalgie de sa propre naïveté devant l'adulte qui ne comprend rien, qui est devenu trop intelligent pour comprendre. C'est ça que je veux dire, c'est que moi j'ai toujours eu l'impression avec ce livre d'être en présence, non pas d'une arnaque, hein, je ne me permettrai pas, et j'adore Saint-Ex qui est un homme admirable, il n'y a pas de question là-dessus, et Terre des Hommes c'est magnifique, donc c'est pas ça que je questionne. Mais je ne parlerai pas d'arnaque, non. En revanche, il me semble qu'il y a erreur sur le destinataire. C'est un livre pour adultes.
Erreur sur le destinataire, le bon cerisier. Au fond, c'est un livre écrit au sujet de l'enfance, par un adulte, pour les adultes ?
À certains égards, oui. D'ailleurs, ce trouble, d'une certaine façon, dans la réception, existe dès l'origine. Puisque le livre, il faut redire, là, on fête les 80 ans de publication en France. Mais le livre a paru 3 ans plus tôt aux États-Unis, Saint-Exupéry. C'est un livre de l'exil aussi, très clairement. De la solitude, de la désolation. Et quand la critique américaine reçoit le livre, il y a une petite publicité qui paraît dans la presse. Ils disent la critique est unanime. 100% des critiques disent que c'est un livre pour enfants et que ce n'est pas un livre pour enfants. 100% des critiques disent c'est un livre pour adultes et ce n'est pas un livre pour adultes. Mmh. Et 99,5% des critiques disent c'est un livre pour moi. Voilà, ça résout la question. Mais enfin, ça la résout peut-être partiellement.
Mais c'est intéressant parce que
c'est quand même un livre que l'on offre à des enfants.
Au tout début du livre, c'est oui, mais quelle erreur. Quelle idée
de remettre ça à des enfants.
Quelle idée de donner ça à un enfant, c'est comme lui offrir le mythe de Sisyphe, si vous voulez. C'est pas fait pour lui. C'est pas fait pour lui. Non, mais par exemple, je prends un exemple. Le tout début. Tout le monde se souvient du début. Hein, le chapeau. Donc c'est le boa qui mange un éléphant. Et les adultes,
dessiné par l'aviateur.
Et les adultes, ces imbéciles, ces aveugles, que voient-ils ? Ils voient un chapeau. Seuls les enfants savent que derrière le chapeau, il y a un boa qui mange un éléphant. De la même manière, le mouton est dessiné dans sa caisse. Les enfants ont le génie de voir le mouton dans la caisse, alors que les adultes, ces imbéciles, ne voient qu'une caisse. Or, l'enfance, c'est précisément l'inverse. L'enfance est dans la capacité à voir un chapeau là où un boa mange un éléphant. C'est l'adulte, le scientifique, qui dit « mais non, c'est un boa qui mange un éléphant ». L'enfant, lui, il voit le chapeau. Et en cela, il voit plus juste que l'adulte.
C'est précisément ce que dit Saint-Exupéry.
Ah mais non, pardon.
Ah bah si, ni plus.
Ah mais non. Ah mais non. C'est l'adulte. Il dit à un moment « je suis comme les grandes personnes ». J'ai dû vieillir, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. De la même manière...
L'enfant voit le mouton à travers la caisse.
Ça oui, c'est bien l'erreur. C'est bien ça. C'est bien ça l'erreur qu'il fait. La capacité à voir au-delà des apparences, la capacité à surmonter les apparences, la capacité à voir ce qu'il en est du phénomène qui nous surprend, c'est une capacité à considérer que l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est une capacité proprement adulte. Alors que l'enfance est précisément dans la capacité à s'émerveiller des apparences ou dans la capacité à voir un chapeau là où le boa mange un éléphant.
Alban Cerisier, alors votre lecture justement entre ce contenant et ce contenu, on pourrait dire aussi, j'allais dire même défendre que c'est une ode à l'imagination. Dans cette caisse, dans ce contenant, on peut y mettre tout ce qu'on veut et le monde entier.
Tout ce qu'on veut et la vérité dans le regard, pas dans ce qui est regardé. Voilà, c'est ce que dit Saint-Exupéry.
Ça, c'est affreusement subjectif.
Mais c'est un puissant idéaliste, un idéaliste radical, Saint-Exupéry, évidemment, puisqu'il ne cesse de nous dire que la vérité de ce qu'on voit ne se situe pas exactement dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on aurait pu y voir, voilà, et qui a potentiellement disparu. La fameuse couleur des blés, etc., c'est la persistance de ce qui a disparu, voilà, mais qui reste à disposition, puisque, encore une fois, l'important elle le regarde, l'âme qui regarde, là, qui habite le monde, et pas le monde en tant que tel, seul, qui reste finalement un bloc de granit noir ou quelque chose de menaçant. Il y a une tous ces personnages voilà très déplaisants que le petit prince rencontre. Ce sont des personnages qui ont été pris dans la glaise du monde. Ils sont embarqués dans le monde, mais ils se sont laissés embarquer dans le monde. Voilà, ils n'ont plus cette capacité précisément à faire du monde le lieu de l'esprit humain. Voilà, c'est ça que dit Saint-Exupéry avec ses mots à lui. Après, c'est de la philosophie de contrebande, comme tous les contes. Vous y retrouvez toute la philosophie du monde. C'est là où Raphaël se trompe hein, quand il dit que tout ça a déjà été dit, vu mille fois mieux théorisé, que Pascal a précédé Saint-Exupéry. Mais bien sûr que Pascal a précédé Saint-Exupéry. Ça va de soi, mais c'est vrai de tous les contes. Dans ces cas-là, vous interdisez la lecture des contes aux enfants.
Je n'interdis rien du tout, Dieu préserve. Dieu préserve. En revanche, je m'insurge contre cette opéa sur l'enfance qui est réalisée par ce livre et par son lectorat. D'abord, il faut dire que l'enfance est une catégorie en philosophie. C'est une façon de regarder. Pour Bergson, il faut retrouver une façon virginale de voir, d'entendre et de penser. Pour Nietzsche, l'enfant rétablit l'innocence du devenir. Pour Camus, c'est la même chose. Donc, l'enfance est un point d'aboutissement, c'est une sagesse supérieure. Quelle est cette sagesse ? En quoi consiste-t-elle ? Elle consiste à chérir le monde sans lui demander de nous aimer en retour. C'est ça la sagesse de l'enfant. C'est celui qui ne demande pas au monde d'être indulgent envers lui puisqu'il vit comblé des biens de ce monde, à l'image du jeune Camus qui se promène dans la nature, etc., dans le premier homme. Donc l'enfance, c'est ça. En philosophie, c'est une catégorie très importante. Mais l'idée, ça n'a rien à voir avec la contrefaçon d'enfance qu'on a sous les yeux quand on lit Le Petit Prince, où on se présente comme où un jeune garçon nous dit à un adulte, tu parles comme les grandes personnes, tu confonds tout, tu mélanges tout, tu t'occupes de choses sérieuses. C'est pas comme ça que les enfants pensent, c'est pas comme ça que les enfants réfléchissent.
Mais Saint-Exupéry n'a pas le projet de faire un portrait de l'enfance. Il fait le portrait de l'enfance continué. Dans le monde adulte. C'est ça son sujet. Voilà, pour lui, les hommes se sont perdus dans un monde dont ils ont perdu d'une certaine façon, enfin avec lequel ils ont perdu le contact, voilà. Et donc il va chercher dans une certaine idée, une certaine image de l'enfance qui n'est pas l'enfance véritable, mais la voie pour reconquérir quelque chose qui relève d'une relation humaine au monde. Voilà. Et la voix, c'est l'enfance. C'est cette vision de l'enfance. C'est l'enfance continuée dans le personnage de l'aviateur, notamment, qui a encore la possibilité de créer ce contact-là
Moi, je suis frappé parce que je trouve que comme la chirurgie esthétique, le jeunisme nous vieillit. Et il y a ici quelque chose, je trouve, par contre-coup de cette enfance continuée qui augmente l'âge de l'adulte, précisément, qui vieillit lui-même l'adulte. Il y a plein de contre-exemples d'enfance qui ne sont pas sur ce modèle-là. Miyazaki, par exemple, raconte le pancrase de l'enfance et de la guerre dans tous ses films. C'est magnifique. Il ne méconnaît pas la cruauté ni la dureté des choses. Et en même temps, il ne cherche pas à édifier le monde avec une philosophie de bas étage. Idem pour La vie devant soi. Idem même pour Mort à crédit. Même Mort à crédit est un récit d'enfance extraordinaire qui n'essaie pas d'édifier son lecteur. Moi, c'est ça qui me gêne.
Ouais. Si on tente d'inverser les choses, plutôt qu'un livre au sujet de l'enfance, à propos de l'enfance, est-ce qu'on peut pas voir non plus ce texte comme, au fond, une critique de ce que c'est que de grandir, que ce que c'est que d'être adulte, de perdre une forme d'illusion? Si on fait la liste des adultes et des personnages rencontrés par le Petit Prince, on trouve un monarque qui règne sur un faux empire, un homme extrêmement vaniteux, un buveur qui boit pour oublier Kilbois, un businessman qui s'imagine propriétaire des étoiles. Bref, au fond, c'est là peut-être toutes les tares, tous les défauts, Alban Cerisier, que l'on pourrait accorder au fait d'être adulte.
C'est surtout aussi la description d'une terre de désolation. Le premier constat du Petit Prince, ce qui d'ailleurs est lié aussi aux circonstances de son écriture et aux intentions même de l'auteur, c'est de décrire un monde qui va très mal, qui est puissamment, qui a perdu le sens de son propre fonctionnement et le sens de d'une certaine forme de légitimité à lui-même, d'une certaine façon. Et il décrit ça. D'ailleurs, il y a un moment dans le livre, Saint-Exupéry prend le soin, et ça c'est le narrateur qui prend soin de préciser que finalement la Terre dans son ensemble est constituée de tous ces personnages que le Petit Prince rencontre, de ces tristes métiers, de ces sots métiers qu'il décrit. Qui sont précisément la description de la vanité d'un monde qui s'est perdu totalement à lui-même, du fait en particulier des circonstances de la guerre, mais pas uniquement. Donc ce passage-là, la désolation, souligne, enfin crée le décor ensuite du second moment du livre, qui est précisément l'apprentissage qui se joue avec la rencontre avec le renard, voilà, et qui est une sorte de rebond d'une certaine façon du récit. Et qui lui permet d'aller vers la voie de la consolation, précisément.
On va revenir à ce renard, mais une réaction d'abord en folle, Antoine.
Oui, c'est très intéressant, les personnes qu'il rencontre. Il y a le roi Chanteclair, en fait, qui fonctionne comme le coq, convaincu que c'est son cri qui fait lever le soleil, puisqu'il exige que les choses arrivent exactement comme elles arrivent, et il se sent très puissant. Il y a le vaniteux qui demande qu'on l'admire. Il y a le buveur qui boit pour oublier qu'il a honte de boire. Il y a le riche qui possède les étoiles pour pouvoir les compter, pour mieux les posséder. Et il y a l'allumeur de réverbère. Et l'allumeur de réverbère, c'est le seul...
C'est un beau personnage.
C'est un beau personnage.
Justement, c'est ça qui est intéressant. L'allumeur de réverbère, c'est le seul qui plaît au petit prince. Pourquoi ? C'est utile parce que c'est joli, dit-il. Et le petit prince dit, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule, peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Or, ce qui est très intéressant, c'est que, encore une fois... C'est l'enfant, le roi qui se prend pour l'origine de la naissance du soleil. C'est l'enfant, le vaniteux qui demande qu'on l'admire. C'est l'enfant, le buveur qui boit pour oublier qu'il a honte de boire. Et c'est l'enfant, le riche qui se prend pour le possesseur des étoiles. Le seul qui ne soit pas enfant dans cette histoire. C'est l'allumeur de réverbère qui se soucie d'autre chose que de lui-même, alors que l'enfant, c'est l'âge d'un égoïsme forcené.
Donc Saint-Exupéry se trompe de défaut, se trompe de tare, justement?
Moi, c'est très intéressant. Je le vois à chaque fois qu'il décrit les calamités du monde adulte, les calamités de ce monde oublieux de l'essentiel, etc., etc., il décrit des comportements de gamins. Il décrit des comportements infantiles. Et quand il s'étonne, en revanche, de la qualité de quelqu'un, il s'étonne de cette qualité en vertu d'une qualité précisément adulte, c'est-à-dire le désintéressement, la capacité à se soucier d'autre chose que de soi, ce qui est précisément ce qu'on trouve assez peu chez l'enfant.
Droit de réponse, Alban Cerisier.
Oui, dans le caractère de l'humeur réverbère aussi, c'est l'homme qui sait s'émerveiller, hein, quand même, hein, notamment de sa capacité qu'il a à vivre lever de soleil au rythme de la rotation de sa planète. Donc en fait, c'est un petit peu plus...
44 couchers de soleil.
44 ou 43, suivant les versions.
Qui est l'âge de Saint-Exupéry lorsqu'il...
Oui, enfin, il y a toute une théorie là-dessus.
Ben voilà, c'était la mienne partagée par bien d'autres. Je voudrais vous faire entendre l'extrait du film réalisé par Marc Osborne, extrait de ce moment où le petit prince rencontre le fameux renard et donc se met sur le chemin de la consolation.
Joue avec moi.
Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé.
Que signifie apprivoiser ?
Cela signifie créer des liens. Pour moi, tu n'es encore qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi. Pour toi, je ne suis qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre.
Qu'est-ce qui se joue, Alban Cerisier, dans ce moment, dans cette rencontre entre ces deux personnages ?
En fait, cette rencontre qui ne devait pas avoir lieu, si on en croit le manuscrit, c'est une scène qui a été ajoutée par Saint-Exupéry. Elle ne figure pas sur le manuscrit, sur les premières versions du manuscrit. En fait, dans les versions du manuscrit, le petit prince vient à cette connaissance tout seul, après un épisode très précis, qui est celui de la visite aux 1000 roses. Voilà, qui a un jardin, il y a 1000 roses. Et le petit prince s'est
confronté. Je croyais que la mienne était unique.
Voilà, etc. Il est confronté à l'uniformité des roses, à l'effroyable ressemblance de toute chose, laquelle a été tout aussi bien décrite par Breton, d'ailleurs, dans L'amour fou. Voilà. Et ce vertige de l'uniformité du monde, tel qu'inhabité par le sentiment humain, par la réflexivité humaine, lui apparaît de manière effroyable, comme une première piqûre du serpent, d'une certaine façon. Et donc, c'est à ce moment-là que se joue précisément le retour sur soi et la compréhension, effectivement, que ce qui vaut dans la rencontre est précisément le geste de la rencontre, hein, c'est-à-dire une sorte d'humanisme relationnel, d'une certaine façon, entre deux êtres, hein, qui vont l'un vers l'autre, hein, et qui ne valent que par la façon dont cette rencontre se produit. C'est ce qu'il appelle apprivoiser. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est donc la constitution de la pensée relationnelle de Saint-Exupéry au travers de cette image-là et cette rencontre.
Et le renard lui-même, c'est quand même un personnage singulier, quelqu'un qui vient titiller aussi, qui vient travailler.
Oui, d'ailleurs, il inverse le rôle habituel du renard dans les contes pour enfants. Il en fait un personnage espiègle, mais un personnage finalement sympathique et bienveillant.
Oui, mais Raphaël Antoine. En cette contradiction, il y a quelque chose d'essentiel au livre. Le renard est à la fois l'animal sauvage, bien sûr. C'est l'animal sauvage qui explique à l'individu, qui explique posément au petit prince qu'il doit être apprivoisé pour quoi ? Pour être capable de lui parler posément, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est le renard qui occupe les deux places, à la fois de la sauvagerie et de l'éducation. Parce que le renard est un personnage imaginaire. Parce que le renard est un personnage imaginaire. Et alors, c'est très intéressant de voir son grand secret. Son grand secret, donc, la tarte à la crème du petit prince, no offense, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ce que je veux dire ici, c'est que rien n'est plus facile dans la vie que de penser comme ça. Rien n'est plus facile que de dire...
C'est parce que c'est vrai.
Non. Rien n'est plus facile que de dire les apparences sont trompeuses. Rien n'est plus facile que d'ajourner le moment d'être heureux en faisant le héron qui trouve la carpe pas assez grosse ou le kaki pas assez juteux, si vous voulez. Rien n'est plus facile que d'ajourner le moment de jouir de la vie que de retarder ça et de considérer que l'essentiel est invisible pour les yeux et qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Ça devient son credo ensuite. Hein. Ce qui fait la beauté des choses est invisible. Les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. Ce qui est important, ça ne se voit pas. C'est une facilité, ça n'est pas une leçon, ça n'est rien, il n'y a rien d'édifiant là-dedans, il y a juste une facilité de langage, comment dire, c'est le tour de pensée avec lequel les adultes se persuadent à peu de frais qu'ils n'ont pas rompu avec l'essentiel.
Je vous laisse défendre ces deux aphorismes. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, Alban Cerisier.
On ment par omission si on ne parle pas de ces deux aphorismes, les amis. Hein.
C'est au fond la simplicité même de ces deux phrases qui en font leur force et leur vérité, selon vous ?
Alors, oui, et leur vérité selon Saint-Exupéry, parce qu'en réalité, on parle là d'une expérience vécue. D'ailleurs, Saint-Exupéry a assez peu écrit sur son livre, de fait, il n'a pas eu le temps d'écrire. Le peu de témoignages qu'on ait, c'est des témoignages qui sont liés au message qu'il laissait sur son livre à quelques amis à qui il a pu en donner des exemplaires. Et ce qui revient sans cesse, c'est d'une part que la Terre est inhabitable, voilà, sauf pour quelques amis, et à l'égard de quelques amis, et d'autre part qu'il n'a jamais écrit un livre plus vrai, comme Le Comble, puisque c'est celui qui est finalement le plus détaché de son expérience réelle d'aviateur et de son expérience humaine.
En même temps, il s'est retrouvé, alors ça je parle sous votre contrôle, mais il s'est retrouvé dans le désert. Il a erré dans le désert en 35, alors. Avec son mécanicien, parce que là il précise
mais toute
au début
son expérience,
du petit prince,
justement,
j'étais sans mécanicien. Tout, mais
oui. C'est fondé sur l'expérience.
Toute son expérience, le sens de cette vérité, au-delà des vérités générales qu'il va chercher et qu'il assume pleinement comme étant les siennes, c'est quand même son droit, il me semble.
Bien sûr.
Et d'autre part, c'est aussi une vérité de l'expérience. Vous évoquez 35, cette expérience est magnifiquement racontée dans le plus beau chapitre de Terre des Hommes, où il explique comment le désert est un lieu habité de ce que Saint-Exupéry est, tout simplement. Donc le désert n'est rien s'il n'est autre chose que ce que Saint-Exupéry, pilote perdu avec son aviateur Prévost, y voit. Et ça, il me semble que c'est une vérité quand même assez atteignable, très recommandable, il me semble, pour nous tous. Voilà. Et c'est ce que Saint-Exupéry apporte avec ce livre-là, en ayant le sentiment, l'espoir, que ce sentiment-là du monde, ce sentiment d'appartenance au monde, peut être d'une quelconque utilité pour les siens.
Moi, d'une part, je trouve que le mirage,
Raphaël Antorin,
le mirage de cet enfant dans le désert, qui serait porteur de toute la nostalgie du monde, de toute l'enfance perdue, qui serait à la fois l'incarnation de l'enfance perdue et le théoricien de l'enfance perdue, puisqu'il n'arrête pas de dire « les grandes personnes ne peuvent pas comprendre », la dernière phrase, « et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance », etc. Donc il est à la fois l'expérience de l'enfance et le théoricien de sa propre expérience. Je trouve qu'il y a dans cette figure tout d'une chimère plus que du mirage. Alors qu'on pourrait imaginer que dans le désert, il y a le mirage de cet enfant.
Mais comment vous, pardon,
non, je
mais comment
vous
expliquez, Raphaël, que ce livre serve autant à ceux qui le lisent? Comment vous expliquez alors que cette émotion a une portée très existentielle et très simple pour peut-être 95% des lecteurs qui le lisent.
Et puis c'est le qualificatif qui revient un peu partout, mais aussi peut-être d'ailleurs la source de cette explication, le qualificatif c'est universel. Il y aurait une dimension universelle
du sentiment.
Cette histoire est universelle justement dans sa capacité à demeurer comme, un succès mondial.
C'est comme ces politiciens ou ces hommes politiques ou ces présidents sur le départ qu'on adore détester, si vous voulez. Ben voilà, c'est le contraire. C'est le livre qu'on adore aimer. C'est le livre qu'on aime aimer. C'est le livre qu'on est presque d'une certaine manière obligé d'aimer sous peine d'être immédiatement décrété adulte par d'autres adultes qui sont les légataires de l'enfance.
C'est vrai que je ne peux pas adhérer à ce procès d'insincérité du lectorat.
C'est pas un procès d'insincérité du lectorat. C'est pas un procès d'insincérité du lectorat parce que je vois. Vous savez, c'est comme le mythe de Sisyphe. C'est intéressant. Je suis un Camusien ardent. J'ai une passion pour Camus. Il n'y a pas de problème. J'ai toujours lutté pour qu'on diffuse le mythe de Sisyphe. Mais le mythe de Sisyphe, les gens ne lisent que la première page et le dernier chapitre. La première page parce que le suicide, c'est la question importante, etc. Et le dernier chapitre parce que c'est le seul moment où il parle de Sisyphe. Et pour le reste, on passe complètement à côté.
Donc, il ne faut pas compter sur le lecteur, c'est ce que vous dites.
Non, je dis qu'avec le Petit Prince, on a le boa, on a l'éléphant, on voyage un petit peu avec lui, mais on ne retient pas trop les personnages, et on termine avec le renard. Et voilà. Et il n'y a pas de volupté.
C'est déjà beaucoup, je veux dire.
J'ai entendu des lecteurs bouleversés par la vie devant soi, des lecteurs enchantés par Mort à crédit, des lecteurs qui ne peuvent pas vivre sans ces livres, des lecteurs qui trouvent là une enfance exaucée. Je ne connais pas ce genre d'émotion à propos du Petit Prince.
C'est sûr qu'on est très très loin de Mort à crédit.
On est loin de Mort à crédit.
Je voudrais quand même qu'on revienne.
Tout ça sont des livres Gallimard. Hein.
C'est pour ça que vous les avez cités, par élégance. Je voudrais d'ailleurs qu'on revienne sur un point essentiel de cette œuvre qu'on n'a pas encore mentionné, les illustrations. Illustrations, c'est ces dessins qui sont aussi un point d'entrée dans l'œuvre, et peut-être même d'ailleurs, plus qu'un point d'entrée, une clé de lecture absolument essentielle, Alban Cerisier.
Alors, pardon, je reviens encore à l'histoire du manuscrit, mais dans le proto-manuscrit qu'on a retrouvé très récemment à la faveur d'une exposition magnifique au Musée des Arts Décoratifs, on a retrouvé un feuillet, certainement le premier feuillet, enfin, c'est vraiment que des idées, et ça commençait par « je ne sais pas dessiner ». Ça aurait dû être l'incipit du livre. Donc autant vous dire qu'effectivement ça pèse considérablement, et c'est effectivement le constat que la chose va pas être simple. C'est-à-dire, si je ne sais pas dessiner, ça va être compliqué. Mais en même temps, c'est parce que je ne sais pas dessiner que mes dessins sont imprécis, c'est-à-dire qu'ils renoncent à la représentation exacte de ce que j'ai sous les yeux, avec notre imaginaire occidental de la perspective, etc.
C'est toute la thématique des discussions, même, des dialogues.
On est bien d'accord, et c'est ça qui engage précisément la discussion possible, et ce raccroc possible au territoire de l'enfance qui occupe autant Saint-Exupéry. Alors, c'est sûr que c'est ce qui fait aussi la particularité de ce livre, et qui l'attache à son lectorat, quand même. Je pense que c'est une spécificité très très forte. C'est rarissime, en fait, les livres illustrés, les livres de littérature illustrés par leur propre auteur au XXe siècle, c'est rarissime. Il y a Lewis Carroll, il y a voilà, mais c'est vraiment très 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 peu de cas. Donc c'est suffisamment extraordinaire pour qu'on y accorde particulièrement.
Et puis précisons bien que ces illustrations ne viennent pas justement augmenter le texte. Elles sont
dans le texte. Elles font partie du récit.
Les
spécialistes appellent ça un iconotexte. Je trouve ça assez vilain, mais en réalité ça participe à la progression du texte et à la narration. Comme les mots, ça a la même vocation et ça doit donc provoquer soit des événements, soit des sentiments auprès du lecteur. D'ailleurs, Saint-Exupéry, on a quelques traces, a pris un soin fou au positionnement extrêmement précis des dessins dans son texte, ce qui explique d'ailleurs certainement le retard de parution aux États-Unis au moment de sa parution. Et j'insiste aussi, on dit souvent que l'activité de dessin de Saint-Exupéry, c'était très récréatif, c'était des choses qui, voilà, et c'était un peu son climat intérieur d'une façon, dans ses petits dessins qu'il laissait partout avant l'écriture du Petit Prince. Par contre, pour réaliser ce livre-là, il est parti de ces petits personnages qu'on connaît, qu'on voit passer en bande publique, voilà, on a fait un catalogue des dessins, et pour aboutir au Petit Prince définitif, ça a été un travail absolument colossal pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de spontané là-dedans, en réalité. Et la découverte des dessins originaux, là aussi très très récemment, ne l'a fait que l'attester, voilà, il y a une extrême fragilité du support, du matériau utilisé, les aquarelles, un tout petit, des petits rehauts de temps en temps, etc., des contours. Mais une volonté chez lui d'aller, comme il essaie de trouver le mot juste, la formule juste, celle qui vous pose problème, Raphaël, il y a le même effort pour aller trouver ce dessin qui va être celui qui touche et qui porte. Et là, pour le coup, Saint-Exupéry considérait qu'un seul livre vendu, un seul livre lu suffisait à en assurer la portée. Là, pour le coup, c'est ça accompagner l'extraordinaire audience du livre, c'est sûr.
Si je tente, Raphaël Antoven, de mettre un instant de côté la dimension philosophique, spirituelle du livre, si on s'attache uniquement à son esthétique, à sa poésie peut-être, est-ce que vous accordez dans ces deux dimensions-là une forme, de crédit au Petit Prince tout
de
même?
Oui, de ce point de vue, c'est remarquable. C'est vraiment ce qu'on appelle un roman graphique, mais au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que l'un des livres les plus vendus dans le monde soit un roman graphique, je trouve ça très important en fait, et très intéressant. Donc là, pour le coup, il y a rien à dire. Quant au dessin, alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai commencé par être très réservé sur ce dessin pastel, insipide, au contour tremblé. Ça me semblait sans grand intérêt. Et alors là, pour le coup, avec le temps, autant le texte lui-même me paraît non seulement assez pauvre, mais d'une certaine manière contrefait dans les émotions qu'il veut susciter et dans ce qu'il prétend être, autant le dessin me paraît d'une ingénuité heureuse. Donc je n'ai rien à dire contre le dessin.
Nous voilà réunis,
il n'y a pas de doute. L'agencement des deux, pour le coup, ça c'est une réussite, oui.
Si l'on tente de réunir cette fois-ci, Alban Cerisier, Le Petit Prince avec toute l'œuvre, le reste de l'œuvre de Saint-Exupéry, est-ce que ce livre en particulier, ce Petit Prince, est un pas de côté pour Saint-Exupéry ou bien non, c'est l'affaire d'une grande continuité littéraire?
Non, c'est un pas de côté, c'est pas un pas de côté dans ses thématiques ou bien entendu.
On retrouve quand même les grandes thématiques de Saint-Exupéry.
Bien sûr, on évoquait le Terre des Hommes tout à l'heure, on est en plein événement, et la question aussi de l'enfant mort, de la question de la menace de la mort sur l'enfant, ça fait lien aussi avec Pilote de guerre et ce passage de Pilote de guerre magnifique où Saint-Exupéry évoque la mort de son jeune frère. Enfin bon, donc on a des points d'attache très forts. Après, c'est quand même un livre très atypique. C'est effectivement un pas de côté parce que ses principaux romans sont des romans de l'aviation. Et roman avec beaucoup de guillemets, hein, parce que c'est aussi des récits autobiographiques très très portés par l'expérience. Donc là, à cet égard, c'est un grand pas de côté. Voilà. Et puis c'est aussi un livre de circonstances et de commandes. De circonstances, je l'ai dit, l'exil, New York. Il sait aussi qu'il va partir. Et voilà. Et il laisse ce livre-là à ses amis à New York en disant, je vous laisse au moins ça, quoi. Voilà. Il sait très très bien qu'il a une chance sur deux de pas revenir. Enfin, quand je dis une chance sur deux, c'est même plus, s'il reprend l'avion. Et c'est ce qui s'est passé, en réalité. Donc il y a quand même quelque chose qui relève du don dans l'écriture de ce livre et qui est compris comme tel par ses proches et en premier lieu par Consuelo, son épouse. Voilà. Donc et puis c'est un livre de commande parce que c'est aussi la bonne idée d'un éditeur américain qui sollicite finalement ce travail chez Saint-Exupéry et il s'y prête avec grande joie, bien entendu, avec souffrance du créateur. Il y a eu beaucoup de mal à l'écrire.
Si je renoue, Raphaël Antoven, avec le début de notre conversation et que je tente de l'élargir, qu'est-ce qu'écrire pour les enfants, au fond? Quelle devrait être la mission qu'un adulte se donne à lui-même lorsqu'il entreprend un tel exercice?
Ah, c'est une question géniale, parce que c'est la question proustienne par excellence. Il faut avoir une mémoire quantique, c'est-à-dire il faut pouvoir
mémoire être... quantique.
Oui, c'est-à-dire pouvoir être le contemporain du souvenir qu'on a. Pas juste avoir un souvenir, mais être le souvenir qu'on a, de manière à ce que les choses qu'on raconte nous parviennent au lecteur avec leur maximum de fraîcheur. C'est l'équation proustienne. C'est-à-dire, c'est une mémoire absolue, c'est la mémoire absolue d'un individu qui est le contemporain de ses propres souvenirs.
Ce qui suppose que l'enfance n'est pas perdue.
Et continue de vivre. Mais je trouve que, pour le coup, Le Petit Prince, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, c'est un adulte qui joue à l'enfant, alors que dans le cas de Proust, c'est un adulte qui redevient l'enfant qu'il était quand sa grande-tante lui donnait un peu de madeleine trempée dans du tilleul. Si je prends un autre exemple, qui parlera peut-être plus à nos jeunes auditeurs, Claude Ponty. Claude Ponty, qui dit pique-pendre d'ailleurs du Petit Prince, qui n'aime pas ce texte, Claude Ponty raconte dans des histoires pour enfants, par exemple, Okilélé. C'est un enfant qui, à la naissance, a la trompe un peu longue, et donc ses parents disent Okilélé, à tel point qu'il prend ça pour son prénom, et ça devient son prénom. Il est chassé par ses parents, il est muré vivant par ses parents, qui ne veulent plus jamais avoir affaire à lui. Avant de se réconcilier avec eux, on est là en présence d'une trajectoire dont... dont l'âpreté n'est pas pasteurisée, dont les souffrances ne sont pas tempérées par le sentiment que toute sagesse est détenue par l'enfant. Non, on a là véritablement le point de vue de l'enfance. Et même un exercice très heureux, moi je trouve, qui est l'exercice le plus casse-gueule du monde, mais dont il se sort comme un chef, c'est la vie devant soi. Momo, la personne de Momo. Momo dans la vie devant soi, c'est très exactement Romain Gary, mais c'est très exactement un enfant. Et il n'y a aucun doute sur l'identité de l'enfant. C'est ça qui est fort. Alors qu'avec Le Petit Prince, mais on a vraiment le sentiment que, voilà, l'idée que Saint-Ex se fait de l'enfance prend congé de nous par l'entremise opportune d'un serpent.
Le mot de la fin pour la défense. Alors est-ce que cette enfance vit justement?
Raphaël fait erreur par rapport au projet de Saint-Exupéry, qui n'a jamais été fait de faire le portrait de l'enfance. C'est le portrait des âges de la vie qu'il veut faire Saint-Exupéry. C'est ça qu'il fait.
Des âges de la vie.
D'ailleurs, il y a une série de dessins qu'il a lui-même appelé les âges de la vie. Voilà, j'invente rien. Et qui est une sorte de résumé graphique du Petit Prince, qui est à côté du Petit Prince. Enfin, c'est le même personnage, etc. Et c'est le temps de la déception, le temps des folles espérances, etc. Donc, il est dans une perspective très métaphorique et qui veut saisir l'intégralité des souffrances et des bonheurs de l'existence. Enfin, c'est juste ça qu'il dit. Donc, effectivement, si on va chercher le portrait exact d'une enfance, on en sortira toujours perdant, parce que c'est pas ce qu'il veut faire. Mmh. Et Saint-Exupéry ne méconnaît pas les autres figures dans l'enfance. Le plus bel exemple, c'est Mozart assassiné. Le Mozart qu'on assassine dans le train qui ramène les émigrés polonais dans leur pays d'origine, et cet enfant désolé dans cette cabine de train, voilà, qui est la mort de l'enfance. L'enfance comme potentialité, comme capacité d'engendrement de la vie.
Vous m'accorderez, Alban.
Il la méconnaît pas. Elle est présente dans l'œuvre, bien entendu.
Un mot de la fin.
Vous m'accorderez, Alban, que ce n'est pas un livre, Le Petit Prince, qu'on offre à des enfants.
Je ne peux constater qu'on passe notre temps, à l'offrir à des enfants, et que les enfants, et c'est d'ailleurs l'auteur de Mary Poppins qui l'a très très bien dit, y voient ce qu'ils ont à y voir.
Merci beaucoup à vous deux. La meilleure recommandation qu'on peut faire, d'ailleurs,
c'est de lire, relire, bien sûr,
pour que chacun puisse.
Mais aussi Claude Ponty, mais aussi les films de Miyazaki, mais aussi.
Et Miyazaki, grand lecteur de Saint-Exupéry, grand admirateur.
Oui, c'est vrai.
Et Marcel Proust.
Et La Vie Devant Soi.
Merci beaucoup, Alban Cerisier, Raphaël Antoine. Merci également à celles et ceux qui qui ont préparé cette émission. Mathias Mégis, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancey, Antoine Héral.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.